Merci Marie-Hélène. 19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, le Salon Noir. Qu'est-ce que l'archéologie, si ce n'est trouver la main de l'homme ? Certes, nous sommes tous et par essence des homo faber, toutefois le Salon Noir se consacrera ce soir, non pas à la main ni au coude, mais aux pieds. Il est vrai que toute l'évolution humaine est née de nos pieds, la station debout, nous permettant l'accroissement de notre cerveau, mais là n'est pas le sujet. Quelque part en France, une dune livre à un archéologue plus curieux que les autres d'étranges empreintes de pas, non pas celles de quelques promeneurs ou baigneurs, mais celles d'hommes disparus, voici plus de 40 000 ans. Pour en parler, Dominique Cliquet, bonjour.
Bonjour.
Conservateur du patrimoine au service régional de l'archéologie de Normandie, Dominique Cliquet, vous êtes un archéologue tout-terrain qui, de surcroît, a de la chance. Dominique Cliquet, en archéologie, on connaît bien l'adage, on ne trouve que ce que l'on cherche. Cela a été votre cas ?
C'est tout à fait le cas, et en fait, je pense que l'archéologie nécessite une part de chance et surtout une grande part de curiosité. Il est important d'observer. L'archéologie, c'est avant tout de l'observation. Ensuite, on fait intervenir d'autres disciplines, les disciplines dites connexes de l'archéologie, avec des spécialistes qui travaillent sur des thématiques très pointues. Mais avant tout, c'est quand même le terrain qui dicte. Ce terrain dicte, et notamment pour ce site du Rosel, il fallait suivre ce terrain sur le long terme. C'est un site qui avait été révélé par l'érosion littorale dans les années 70 et fait l'objet d'une petite intervention archéologique en 1971 qui avait livré des structures de combustion, en d'autres termes des foyers, qui conservaient leur remplissage, qui conservaient des charbons d'os, des charbons de bois, qui avaient livré de la faune, qui avaient livré du matériel taillé en quartz et en silex. On savait donc que c'était un site important. C'est un site que nous avons suivi pendant des années, et il s'est avéré que l'érosion étant devenue beaucoup plus intense, il fallait prendre des mesures conservatoires ou laisser le site être mangé par la mer. Il s'est avéré que nous avons pris les mesures conservatoires qui ont consisté à faire une opération archéologique de grande ampleur.
Si vous avez la chance, c'est peut-être aussi parce que vous avez écrémé plus d'une 80 voire 100 sites préhistoriques.
Il est bien évident que quand on travaille sur ces thématiques de préhistoire ancienne, on est obligé d'un petit peu aller fureter dans tous les milieux, que ce soit les abris littoraux, que ce soit les dépressions karstiques, donc des dépressions naturelles sur les plateaux calcaires, que ce soit les cavités, les abris sous roches, etc. Il s'avère que ce site du Rosel était particulièrement mis en exergue du fait qu'il conservait de la faune, ce qui est très exceptionnel pour la Normandie, notamment la basse Normandie, et dans sa partie acide, de substrat acide, puisque c'est le massif armoricain, que j'appelle tout simplement le massif armoricain normand, par rapport aux positions au massif armoricain breton.
On a marché sur la dune, mais qu'est-ce que cette dune du Rosel ?
Alors cette dune du Rosel, c'est un petit miracle archéologique en fait, parce que c'est une accumulation de sable qui a fossilisé en fait des sols archéologiques qui sont constitués soit de végétation de dunes dégradées, telles qu'on peut l'avoir sur le littoral actuel, soit de coulées de boue qui se sont mises en place suite à des précipitations rapides de type orage, et nous avons eu la possibilité d'en faire les frais pendant deux campagnes de fouilles en juin 2012 et en juin 2015, donc l'année dernière. On s'est aperçu que ces pelliculages de boue avaient exactement les mêmes configurations, prenaient exactement le même cheminement qu'ils le prenaient il y a 110 000 ans. Et comme les Néandertaliens, qu'est-ce que nous avons fait ? Eh bien, nous avons marché dedans pour voir exactement comment cela se passait. Et donc évidemment, Là, nous n'étions pas pieds nus, mais avec des chaussures. Donc, on a pu voir au niveau de l'impression la pointure des chaussures qui était imprimée dans la boue. Et on s'est rendu compte que très rapidement, le vent nous rapportait du sable et en fait fossilisait ce niveau qui était un niveau récent. Et on a pu avoir une accumulation de sable d'environ 30 à 40 cm en fonction des endroits qui étaient observés en l'espace d'une journée. En fait, ce site du Rozel, c'est une accumulation de sable qui est systématiquement venue recouvrir les niveaux d'habitat et de ce fait les a fossilisés.
Alors comment se présentent ces pas ?
Alors c'est pas, je dois dire dans un premier temps que c'était la grosse surprise parce que on a commencé à voir sur un sol organique relativement peu épais, ce sont des sols organiques qui font entre 1 mm et 5 mm d'épaisseur, on a vu un poinçonnement qui avait une morphologie qui évoquait un pied. Et puis il y en avait un autre à côté, puis il y en a eu un troisième. Au début, on s'est demandé si on ne rêvait pas, si c'était pas notre cerveau qui transformait quelque chose de naturel en pas humain. Et il s'est avéré que nous en avons trouvé d'autres dans des sédiments variés. Et puis surtout, on a eu la possibilité de mettre en exergue le volume de ces pas grâce à des technologies novatrices, bon évidemment la photogrammétrie, mais surtout nous avons la chance de travailler avec Gilles Berrion du Muséum qui a mis à disposition du chantier un scanner 3D, ce qui nous a permis de faire des acquisitions 3D, et sur ces acquisitions 3D, on voit très nettement la morphologie de la plante des pieds, les orteils qui se dessinent, et le petit bourrelet entre la plante des pieds et les orteils.
Vous êtes sûr vraiment qu'il ne puisse s'agir des empreintes de vos fouilleurs ?
Alors déjà,
vous ne fouillez pas pieds nus ?
Non, ce sont des empreintes qui sont des empreintes de pieds nus ou de pieds emballés dans des peaux très très souples et très minces. Ça, pour l'instant, nous ne savons pas. Nous sommes en train de travailler sur justement cette problématique. Et quant au piétinement des fouilleurs, nous avons systématiquement tous des chaussures parce que c'est un site qui nécessite des techniques de fouille un petit peu particulières dans la mesure que ce sont des sédiments qui sont restés très meubles, c'est du sable tel que la dune actuelle se présente, c'est-à-dire qu'on a les pieds qui enfoncent dans le sédiment. Quand on sait que ces sédiments incorporent des niveaux archéologiques qui comportent du matériel, notamment du matériel fragile, puisque nous avons des ossements, nous avons des foyers, il fallait prendre des mesures qui permettaient de pouvoir évoluer sur le site sans déstructurer les niveaux archéologiques. Si bien que nous travaillons sur des treillis métalliques, des treillis soudés qu'on utilise pour le BTP, tout bêtement, qui nous permettent d'évoluer et que nous déplaçons à mesure que nous travaillons de façon à ne pas oblitérer les sols archéologiques.
Dominique Cliquet, vous me parliez éventuellement de très fines peaux autour du pied de ces individus. Qu'est-ce que l'on sait des chaussures de ces préhistoriques en général ?
Alors, on n'en sait rien pour l'instant, puisque malheureusement, on n'a pas retrouvé de cuir. Pour les empreintes de néandertaliens et d'anténéandertaliens, pour l'instant, nous n'avons que des pieds nus qui sont attestés. Surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir que sur ce site, on aura peut-être des éléments de réponse à partir de l'observation de la faune, qui est dans un état de conservation très exceptionnel, puisque les traces de découpe sont conservées sur le matériel osseux, et notamment, nous avons pu voir sur des pièces osseuses de cerfs, notamment les museaux, des traces de découpe qui correspondent à la récupération de peau. Par ailleurs, nous allons faire bien sûr de l'expérimentation pour confronter ce que va nous donner cette expérimentation à ce que nous a donné le terrain, ces enregistrements 3D. Il est bien évident qu'il ne faudra pas forcer la documentation archéologique. Si nous ne pouvons pas trancher, nous ne trancherons pas. Nous dirons seulement que nous avons tenté telle expérience et c'est tout.
Alors dans votre mission, dans votre chantier, vous avez un archéologue passionné d'empreintes ?
Tout à fait, et je dois avouer que si les premières empreintes ont été vraiment fouillées comme il le fallait, de façon idoine. C'est très difficile à fouiller ces empreintes, c'est très long, parce que en fait, il faut nettoyer avec un pinceau très très fin, hein, on utilise tout simplement des pinceaux que ces dames utilisent pour le maquillage, pour enlever quelques grains de sable, il faut laisser le sédiment ressécher, et on procède comme ça sur 2-3 empreintes en même temps en passant l'une à l'autre. Et il faut surtout pas nettoyer avec le sable humide, autrement on surcreuse l'empreinte, c'est-à-dire qu'on fabrique un faux archéologique de fait.
Et de quel âge datent donc ces pas ? Et à quel homme peut-on réellement les attribuer ?
Alors ces empreintes sont datées par des techniques de datation assez sophistiquées. Là, je travaille depuis plusieurs dizaines d'années maintenant avec Norbert Mercier, qui est physicien spécialiste en datation à Bordeaux, CNRS Bordeaux. Et nous avons travaillé sur des datations sur sédiments par luminescence optique. Là, c'est un gros mot, hein, c'est une technologie qui est vraiment très pointue. Mais ça nous permet d'avoir une datation relativement fine, et nous sommes dans une tranche chronologique entre 115 000 et 110 000 ans, sachant que ces empreintes ont été repérées sur actuellement 5 sols archéologiques différents.
Donc pas forcément les mêmes personnes.
Pas forcément les mêmes personnes. Alors ça, c'est pour tous les niveaux qui ont été investigués dans les années 2012-2015. Nous savons que nous avons encore au moins 1,80 m de stratigraphie à fouiller, avec des niveaux organiques conservés, puisque nous les avons observés en coupe. D'autres empreintes sont attendues.
Dominique Cliquet, en tout cas, ce qui est tout à fait formidable, c'est que nous avons affaire à une sorte de bref instant, un élément fugace et figé dans le sol depuis 110 000 ans.
Tout à fait, et ça nous donne des instantanés, et ce site est assez fabuleux pour tous ces instantanés. On avait déjà eu des surprises, on savait que ce site était exceptionnel, mais on ne pensait pas que ça allait être à ce point. Et notamment, nous avons eu sur un niveau archéologique qui était consacré à des travaux de boucherie, nous avons pu suivre dans le temps et dans l'espace, l'évolution d'un couteau de boucherie qui a été raffuté. On a tous les petits éclats de raffutage et on suit le cheminement du boucher de l'époque, du Néandertalien, qui systématiquement raffutait son outil. Donc là, on avait un instantané sur ce genre de choses. Et on a des instantanés aussi sur des moments de vie. Notamment, nous avons deux aires de piétinement qui ne comportent que des pas d'enfants, à part une piste d'un adulte qui traverse cette zone et qui se trouve en périphérie des aires de travaux qui devaient être occupées par les adultes pour la découpe de la viande, la récupération de moelle et bien sûr la production d'éclats pour pouvoir faire tous ces travaux techniques.
On pourrait être presque sur une aire de jeu d'enfant.
C'est ce que ça évoque. Et surtout, ce qui est très important, c'est que on se rend compte à partir de ce site. Alors, évidemment, on ne peut pas généraliser puisque ce site est un peu un épiphénomène puisque c'est un des rares sites à avoir livré autant d'empreintes. On a dépassé la centaine d'empreintes de pas sur le site, ce qui est colossal, ce qui doit représenter 90% à peu près de la connaissance pour les Néandertaliens et pré-néandertaliens. Ce qui est important, c'est de voir qu'on a toutes les classes d'âge, toutes les tranches d'âge qui sont représentées, puisque nous avons du pied de bébé qui commence à marcher, jusqu'au pied de l'adulte de grande dimension, avec une pointure qui est aux alentours quand même du 44, ce qui est assez inattendu pour du néandertalien. Généralement, ils ont des pointures un petit peu plus petites. Et surtout, ce qui est important, c'est de voir que sur ces aires de travaux bien spécifiques, puisque c'est du travail de boucherie, avec des portions de carcasses qui ont été apportées sur le site, donc les animaux n'ont pas été abattus sur le site, mais des parties d'animaux ont été introduites sur ce site pour les découper et vraisemblablement avec les foyers, les fumer la viande. On est en train de travailler dessus justement avec un spécialiste chimiste qui travaille sur les acides gras.
France Culture, le Salon Noir.
Vincent Charpentier.
Dominique Cliquet, vous auriez à peu près combien d'individus ? On peut le déterminer ?
Alors, bon, il est trop tôt pour donner des chiffres, au moins les publier, puisqu'il faut quand même bien avoir travaillé sur l'ensemble de la documentation. Ces empreintes, si elles sont nombreuses, peuvent appartenir, pour certaines, au même individu. Mais à partir de ce qu'on a pu constater, ce seraient des petits groupes de 15 à 20 individus. Ce qui était attendu, ce qui n'était pas attendu, c'est qu'on ait l'ensemble du groupe qui participe à ces opérations. Parce qu'avec le comparatisme ethnographique, les parallèles qu'on peut faire avec les chasseurs-cueilleurs, collecteurs, contemporains, subcontemporains, systématiquement l'acquisition de viande est associée à un travail d'homme ou un travail d'adolescent mâle. Là, on se rend compte que c'est l'ensemble du groupe qui se déplace. Et c'est très intéressant et c'est très stimulant pour la recherche parce que tous les schémas sur lesquels on fonctionnait pour le paléolithique moyen, avec camp de base et approvisionnement avec des camps périphériques, ne tient pas pour le site du Rosel. Je ne veux pas dire que c'est comme ça pour tous les sites, mais au moins, on peut le dire pour ce site.
Dominique Cliquet, des pas ont déjà été découverts et mis au jour dans d'autres sites ?
Il y a eu des pas de mise au jour. En milieu dunaire, il y avait eu une empreinte de pied à Terramata. Il y a eu une piste qui a été mise en évidence dans des cendres volcaniques en Italie. Il y a eu bien sûr la découverte très exceptionnelle liée aussi à l'érosion littorale en Grande-Bretagne, à Pittsburgh. Là, on est quand même dans des périodes beaucoup plus anciennes où on a pu avoir des empreintes de pas d'hommes anciens, puisqu'on est aux alentours de 800 000 ans, sur un littoral. C'est une sorte de tangue, donc un sédiment plastique qui a pris les empreintes de pas. Et surtout, ce qui est important pour le Rosel, c'est qu'on est sur des déserts d'habitat, à la différence d'Pittsburgh, où là, on a des empreintes, mais c'est complètement dissocié d'activités techniques et de structures et même de matériel lithique.
Alors on a aussi bien sûr des périodes plus récentes, notamment le paléolithique supérieur, avec dans les grottes bien sûr beaucoup de pas, notamment au Tuc d'Adoubert, je pense à Cussac, on en a trouvé récemment. Et puis il y a cette très belle histoire de cet enfant qui visiblement poursuit un renard.
Et on a toutes ces données pour le paléolithique supérieur. La seule différence c'est que c'est plus la même humanité. Le paléolithique supérieur c'est Cro-Magnon. Pour ce qui est de ce qu'on nous a appris à l'école, en d'autres termes, c'est l'homme moderne, c'est nous. Donc là, on a affaire à une autre humanité, à d'autres concepts. On sait qu'à partir de 40 000 ans, on a des acquis technologiques de ces hommes modernes qui font que on a une adaptation à un milieu. On a une adaptation à un milieu qui est un milieu très défavorable, un milieu froid. C'est pas un hasard si on voit apparaître l'aiguille à chat au solutréen, puisque c'est la période la plus froide de la dernière glaciation. Et cette aiguille est liée vraisemblablement à la confection de vêtements et de chaussures.
Je rappelle pour les auditeurs du Salon Noir de France Culture que nous évoquons avec Dominique Cliquet la préhistoire de Normandie et la découverte de pas datés de plus de 100 000 ans sur une dune. Ce site connu de longue date livrerait des vestiges que l'on ne trouve généralement pas ailleurs ?
On a la chance sur ce site d'avoir un panel d'informations qu'on n'a pas la possibilité de trouver sur d'autres sites, puisque c'est un gisement qui conserve absolument tout, à part les pollens. Puisque le sédiment n'est pas du tout favorable, les milieux sableux sont pas favorables à la conservation de pollen. Par contre, nous avons des éléments organiques qu'on n'a pas l'habitude de voir conservés dans les sites.
Des élytres de Charançon, c'est bien ça ?
Exactement. Donc en fait, nous avons des insectes qui sont conservés. Élytres, hein, c'est un gros mot aussi. En fait, ce sont des éléments de carapace d'insectes. Nous avons la microfaune qui est conservée, des boulettes de réjection de chiroptères, en d'autres termes de chauves-souris, qui habitaient aussi le site au moment où les Néandertaliens étaient sur les lieux.
Et de la grande faune.
Et de la grande faune.
Laquelle ?
Et la grande faune de très grande conservation. Et cette faune est essentiellement constituée pour les niveaux que nous avons investigués dans la dune supérieure de cerfs, qui est l'animal dominant, de cheval, de roc, en d'autres termes le bœuf sauvage. Il y a un petit peu d'éléphant de forêt, qu'on appelle éléphant antique. Il y a un petit peu de rhinocéros de prairie, qui est un rhinocéros de climat, comme tout ce cortège, de climat plutôt tempéré. Et on a aussi un petit peu de chevreuil.
On est dans une période où l'on va vers une glaciation.
Alors,
le temps va se refroidir.
Exactement. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça, puisque nous avons la chance d'avoir un enregistrement du début de la dernière glaciation qui se développe sur presque 30 mètres d'épaisseur. Donc en gros, sur ces 30 mètres d'épaisseur, nous avons une tranche chronologique, une épaisseur de temps assez considérable, puisque nous avons le début de cette formation vers 120 000 ans, et l'achèvement de la mise en place de ces formations dunaires entre 68 et 70 000 ans. Donc on s'aperçoit qu'on a un enregistrement qui est un enregistrement sur le long terme, qui est fin. Il est bien évident que nous avons aussi des hiatus dans cet enregistrement, puisque si le vent apporte du sable, parfois il remporte. Et ça, on a pu le voir aussi, nous, pendant les campagnes de fouilles successives que nous menons. Et surtout, on a pu se rendre compte que ces enregistrements nous permettaient d'appréhender aussi le climat, à partir bien sûr de la microfaune, et à partir de certaines espèces que nous avons dans les sédiments, notamment dans les niveaux qui ont été investigués dans les années 70, sur lesquels nous allons travailler à partir de l'année prochaine.
Cas exceptionnel, vous avez découvert un morse. Que venait-il faire sur les côtes normandes ?
Alors, ce fragment de morse vient des fouilles anciennes. On espère, puisque ce niveau se prolonge sous le massif dunaire que nous sommes en train d'investiguer, nous espérons avoir d'autres pièces de faune. Donc, on a la certitude, dans la mesure où cet animal a été cette portion d'animal a été introduite sur le site archéologique, que c'est au moins un animal qui a été récupéré, peut-être pas chassé, hein, c'est peut-être un animal qui est arrivé à la dérive, épuisé, peut-être déjà mort, mais toujours consommable. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel, parce qu'on s'aperçoit que là, on a quelque chose qui touche au milieu marin. Durant toute cette occupation que nous suivons entre 120 000 et 70 000, nous nous rendons compte que ce sont essentiellement les grands mammifères terrestres qui ont été mis à profit, qui ont été consommés, alors que la mer était encore relativement proche. On n'a pas de coquillages, on n'a pas de crustacés, d'attester. Les poissons qui sont attestés par des vertèbres se trouvent dans les niveaux intermédiaires, stériles entre les couches d'occupation et sont vraisemblablement des reliefs de repas d'oiseaux marins, mais on n'a pas d'attester d'utilisation du milieu marin, pas de coquillages, enfin, comme on peut avoir à Gibraltar dans d'autres espaces géographiques.
Ce morse, il viendrait du Groenland ?
Alors, ce morse vient évidemment de terres qui sont plus au nord et plus froides, mais ce n'est pas exceptionnel d'avoir des animaux de ces climats plus rigoureux arrivés sur les côtes. Et ça, c'est un phénomène qui est assez récurrent, puisque je m'étais amusé à faire le recensement de tous les échouages de ces mammifères marins de climat plutôt rigoureux, plutôt boréaux ou arctiques. Quand j'ai travaillé sur le site de Port-Racine à Saint-Germain-des-Vaux, qui était lui aussi un site littoral occupé par les Néandertaliens, plus récent, puisqu'on est vers 70 000 ans, et on s'aperçoit quand même la littérature nous donne énormément d'informations pour les périodes subactuelles, mais aussi on a d'attester des échouages de grands cétacés, de mammifères marins, qui évidemment, dès le Moyen-Âge, étaient mis à profit pour extraire la graisse et l'huile, bien sûr.
J'ai souvenir donc de ce site de Saint-Germain-des-Vaux que vous avez fouillé tout en haut du Cotentin. Là aussi, absolument, la pêche n'est pas du tout attestée ?
Alors là, la pêche n'est pas attestée. Malheureusement, le matériel osseux n'est pas conservé. Et tout ce que nous avons pu avoir comme information quant à la prédation tant littorale que continentale, ce sont les analyses de remplissage de foyers, puisque nous avons travaillé dès les années 80, ce qui était un peu novateur, on nous a pris un petit peu pour des professeurs nimbus à l'époque, sur les acides gras, les acides organiques, pour essayer de déterminer quelles espèces animales avaient pu être traitées dans les foyers. Là, on a pu mettre en évidence qu'on avait à la fois du mammifère terrestre, mais aussi du mammifère marin qui avait été traité dans ces foyers. Malheureusement, les méthodes n'étaient pas suffisamment pointues pour déterminer s'il s'agissait de cuisson ou de fumage. Là, on est en train de tester ces foyers du Rosel pour essayer de savoir à quoi ils correspondent. On en a trouvé plus d'une trentaine maintenant. C'est récurrent. Le combustible est systématiquement le même. On a une sélection de pins sylvestres qui n'est pas forcément l'espèce qui était dominante. On suppose qu'il y a une sélection de ce combustible. On a l'utilisation systématique d'os spongieux aussi, qui ne dégage pas de chaleur, mais qui fume.
Dominique Cliquet, pourrait-il y avoir des gisements préhistoriques néandertaliens sous la Manche ?
Alors, sous la Manche, il y en a plusieurs. On a toujours en mémoire le fameux site d'Olt-Onival, qui est connu depuis plusieurs décennies, sinon depuis plus d'un siècle. Et surtout, nous avons le fameux site de Biroc-la-Mondraie, au large de Fermanville, qui avait été mis en évidence par des plongeurs dans les années 70, sur lequel nous avons retravaillé dans les années 2000-2014, puisque les dernières investigations que nous avons faites sur ce site ont été faites en collaboration avec l'Ifremer. Notamment, nous avons cartographié la morphologie de la vallée qui avait été occupée par les Néandertaliens, et bien sûr, des niveaux d'habitat qui s'étaient trouvés fossilisés en pied de rocher, en pied d'une falaise rocheuse, par actuellement moins 20 mètres de fond et daté d'environ 70 000 ans.
Le site de la Mondraie, par exemple, serait à 20 mètres sous l'eau. Qu'est-ce que l'on peut trouver dans de tels sites ?
Alors, ce site a fait l'objet donc d'investigations sophistiquées avec les méthodes actuelles pour bien caractériser les épaisseurs de sédiments, bien caractériser la morphologie du fond de vallée actuel et à l'époque d'occupation par les Néandertaliens, mais surtout nous avons avec des camarades plongeurs du centre de plongée de Cherbourg fait des sondages. Nous avons fait des sondages en 2001 et 2002, sondages ponctuels. Ce sont des sondages de 1 mètre carré, 3 quarts à peu près, puisque en terrestre, les sondages font 1 mètre par 1 mètre, grosso modo, pour les sondages ponctuels. Là, c'est, je ne sais pas pourquoi, c'est du 1,50 m par 1,50 m. Et là, nous avons pu mettre en évidence la conservation d'un foyer, la conservation d'un amas de débitage et la présence de vestiges de faune, cheval et cerf.
Alors, il n'y a bien sûr pas que la Manche, que la mer qui intéresse l'homme de Néandertal. Il y a aussi la Seine. En deux mots, puisque l'émission s'achève, le site de Tourville-la-Rivière que vous avez fouillé, un site exceptionnel ?
C'est aussi un site exceptionnel et c'est un site, comme pour le Rosel, pour lequel je me suis battu pour que nous puissions faire des investigations à la hauteur de la valeur du site. C'est notamment un site sur lequel je pressentais la possibilité de trouver des vestiges humains. Moi, j'ai fait une campagne en 2008. En 2010, Jean-Philippe Fèvre a fait une campagne, a mis en évidence les restes d'un bras de pré-néandertalien ou néandertalien ancien, selon la terminologie, qui est le seul reste humain, hormis la série dentaire trouvée à Jersey, qui, je le rappelle, est quand même un petit peu en Normandie. C'est pas parce que les Anglais nous l'ont piqué, cette île, c'est quand même en Normandie. Ce sont les seuls vestiges humains actuellement attestés pour ces périodes anciennes.
Dominique Cliquet, merci beaucoup. Le Salon Noir a été réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Claire Levasseur, et avec la collaboration de Catherine Donnet. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir, sur le site franceculture.fr ou retrouver sur le site inra.fr plus de 300 archives de l'émission. La semaine prochaine, le Salon Noir sera consacré à la fraternisation de 1915 avec Alain Jacques, archéologue, et Christian Christian Carion, réalisateur de Joyeux Noël.